Recueillons-nous dans la présence du Seigneur et écoutons sa voix. Oui, mon peuple, je suis là, te dit le Seigneur. Si vous saviez combien chacun de vous est précieux à mon cœur, quelle valeur chacun de vous a à mes yeux, vous ne douteriez plus de mon amour. Chacun de vous est une perle précieuse dans ma main. Et rien pour toi n'est plus grand que mon amour, te dit le Seigneur. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pour cela que dans ma bonté, je t'ai conservé jusqu'à ce jour. Et là, le Seigneur m'a donné ce matin des paroles prophétiques pour nous tous. Car nous sommes dans les temps de la fin. Et voici la parole que le Seigneur nous adresse à tous. Quand l'ennemi viendra contre vous, comme un fleuve, dit le Seigneur, mon esprit le mettra en fuite. Alléluia, Seigneur. Et il y a quelque temps, le Seigneur m'a donné une vision et ce matin, il m'a précisé, il m'a donné des précisions supplémentaires merveilleuses que je vais partager avec vous pendant que nous étions là dans sa présence. J'ai vu des vagues grosses comme une maison venir sur ce monde. Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin, nous savons que l'ennemi est déchaîné, mais j'ai vu ces vagues grosses comme une maison. Et j'ai vu un petit chrétien. Et la position que le Seigneur veut que ce petit chrétien ait dans ces temps de la fin. J'ai vu dans ces grandes vagues, au milieu, au-dessus de ces grandes vagues, j'ai vu une grande main, très grosse, très grande, et de la dureté du rocher, de la solidité du rocher. C'était la main du Seigneur. Grande ouverture, grande main, très grande main. Et dans cette très grande main, j'ai vu le petit chrétien venir se blottir dans le creux de la main de Jésus. Et les vents ne pouvaient pas l'atteindre. Il y avait des vents de toutes parts, des vents qui soufflaient fort. Je vous dis, des vagues grosses comme la maison. Mais rien ne pouvait atteindre ce petit chrétien blotti dans la main du Seigneur. Retenez cela pour les temps à venir. Ce sera important pour vous. Car des temps difficiles viendront, dit le Seigneur. Il faut vous blottir dans le creux de la main du Seigneur de gloire, du Seigneur tout-puissant, du Seigneur qui sait dire à la mer, « Tais-toi, arrête-toi, ô vent, calme-toi. » Et ce petit chrétien-là, il était blotti là, et il se trouvait dans une paix parfaite. Rien ne pouvait l'ébranler. Il voyait, il était comme entouré par la main, mais il y avait une ouverture sur l'océan de vagues immenses. Et il voyait les vagues immenses. Mais ça ne l'ébranlait pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il était là où il devait être. Où le Seigneur veut qu'il soit. Et là, il était tellement dans une paix qui surpasse toute intelligence parce qu'il était entouré d'une musique céleste et tant qu'il regardait les vagues, il y a une petite frayeur qui pouvait s'emparer de lui, mais quand il regardait en haut, au-dessus de lui, il y avait l'atmosphère du ciel et c'était une hauteur immense. Et dans cette hauteur immense qui était au-dessus de lui, l'univers, le ciel, les astres, tout cela était là. Et c'était le Créateur, dans toute sa beauté, son infinie grandeur, qui était là. Alors, immédiatement, toutes ces vagues disparaissaient de son esprit. et il ne voyait que la grandeur de Dieu, sa puissance, sa majesté, sa force. Alors nous, quand des vagues immenses cherchent à nous atteindre, réfugions-nous là où le Seigneur nous a préparé une place. Alléluia! 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 Et le souvenir m'est venu de ce que nous avons vécu il y a peut-être 4 ans, où nous avons vu le Seigneur justement protéger un pasteur qui était à l'hôpital dans une grande ville de ce monde. Et cet homme était perdu, mais l'ennemi s'était déchaîné contre lui, voulait absolument le détruire. Et les médecins ne trouvaient pas ce qu'il avait. Ils ne pouvaient pas arrêter la progression de sa destruction, de sa maladie. Et cet homme était condamné là-bas. Et il criait au Seigneur, c'était un pasteur. Mais l'ennemi s'était déchaîné contre lui. Et alors, il y avait de grandes réunions. Et le docteur, qui était un chrétien, et l'infirmière, une chrétienne, et sa femme ont sorti cet homme de l'hôpital. C'était en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et ils l'ont amené dans ce grand rassemblement où l'évangile était prêché. Et puis, là, le Seigneur avait son petit creux du rocher pour lui. Il a envoyé une parole de connaissance. Et cet homme n'a pas été guéri instantanément là. Ils l'ont ramené à l'hôpital. Mais sa femme, qui était là, parce que lui, il ne pouvait pas rester longtemps à la réunion, ils ont dû le ramener, il est juste venu un petit moment pour qu'on prie pour lui, c'est tout. Et puis, rien ne s'est passé, mais sa femme et l'infirmière sont restés là. Et le docteur avait dit, pour cet homme, il a encore quelques heures à vivre s'il n'y a pas un miracle du Seigneur. Et une parole de connaissance a été envoyée et a été donnée par le Seigneur. Et sa femme a su, par les précisions données dans cette parole, que c'était son mari qui était concerné. Elle s'est mise à crier. Et les gens autour d'elle se sont approchés d'elle et ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Non, c'est mon mari, c'est mon mari. Le Seigneur l'a touché. Et il n'était pas à la réunion. Et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a visité cet homme à l'hôpital là-bas, a touché cet homme. Et l'a parfaitement guéri. Parce que il avait un petit endroit où l'ennemi ne pouvait plus le toucher. C'était dans le creux de la main du Tout-Puissant. Et il a eu son moyen et son chemin pour y parvenir. Alléluia! Et pour chacun de nous qui sommes peut-être dans des conditions désespérées, des situations désespérées, il y a le creux de la main de notre Seigneur. Là encore, il y a une solution. Là, il y a encore la paix de Dieu. Là, il y a une solution à notre problème. Et nous avons eu des nouvelles de ce pasteur-là par son infirmière. Il est parfaitement guéri et il a repris son ministère. Alléluia. Le Seigneur veut nous dire. Il m'a donné ces paroles des journées en arrière pour chacun de nous. Chrétiens, souviens-toi que Satan ne peut t'attaquer comme il veut. J'ai mis autour de toi une muraille de feu, autour de chacun de mes enfants, une muraille de feu que Satan ne peut franchir sans ma permission. Je le lui permets parfois, mais dans des conditions très restrictives. Et à ce moment-là, c'est pour fortifier ta foi et te donner une foi inébranlable et aussi pour manifester ma puissance et ma gloire, dit le Seigneur. Alléluia! Levons-nous dans la présence du Seigneur. Acclamons-le, oui! Il est notre rocher, le rocher des siècles, qui ne s'ébranlera jamais. Et si nous allons nous réfugier dans le creux de sa main, nous deviendrons inébranlables. Croyons-le! Oh Seigneur, nous t'adorons, parce que tu es pour nous le rocher inébranlable. et si l'ennemi vient contre toi comme un fleuve, sache que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il sera là juste au bon moment pour intervenir pour toi, si tu crois et si tu restes blotti dans sa main. Alors ne crains point, peuple de Dieu. Si les vagues deviennent grandes comme la maison, tu n'as rien à craindre, tu es le peuple chéri de Dieu. Il t'aime plus que tout au monde. Tu as un prix inestimable à ses yeux parce qu'il a donné son propre fils pour chacun de nous. Amen.
Tu es merveilleux, Seigneur. Il est bon de nous blottir auprès de toi. C'est auprès de toi que nous sommes bien gardés. Seigneur, tu donnes la paix à tes enfants au sein de la tourmente et de la tempête. Merci pour cette vérité glorieuse. Lorsque le monde s'écroule, Seigneur, nous pouvons rester dans la paix auprès de toi. Merci pour ces paroles d'encouragement, d'édification. Et merci pour ta parole maintenant que nous allons ouvrir. Tu as encore à nous parler, à nous enseigner. Puisses-tu trouver en nous des cœurs ouverts, obéissant à ta voix, afin que nous puissions encore plus te glorifier, te ressembler et te refléter dans ce monde. Seigneur, nous comptons sur toi maintenant. Inspire toi-même les paroles qui correspondent aux besoins de tes enfants et pour ta seule gloire. Merci, Seigneur, tu es là. Nous t'aimons et nous t'adorons de tout notre cœur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons voir quelques pensées importantes et surtout des vérités essentielles de la vie chrétienne. Vous savez, nous avons toujours besoin de venir et de revenir aux bases. Et les bases, vous le savez, ce sont les fondations d'une maison. On est trop pressé aujourd'hui. Et quand on construit une maison, on ne va pas trop profond, mais quand la tempête arrive, tout s'écroule, n'est-ce pas vrai? Dans beaucoup de vies chrétiennes, on construit vite, on n'a pas le temps. On veut être béni tout de suite. On veut un ministère glorieux, mondial. Si le Seigneur ne nous envoie pas tout de suite dans le monde, ça ne vaut rien du tout. On est donc là en train de... On bâtit vite, mais sans fondation. Ou alors très peu de fondations. Et une maison se vérifie, non pas quand tout va bien, quand il fait beau, n'est-ce pas vrai? Toutes les maisons sont belles quand il fait beau. Oh, ouh, c'est beau. Que le vent commence à souffler. Ouf, le toit qui commence à partir dans tous les coins. La pluie commence à tomber. Ça commence un peu à faire des trous dans tous les côtés. Et là, tout commence à changer. Et on commence à courir dans tous les coins pour essayer de rafistoler un peu tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment construit sur des fondations solides. Amen. Et là, il y a donc des vérités importantes. J'aimerais vous en donner quelques-unes, on ne va pas trop aller en profondeur, mais vous donner, et ces vérités, si je devais donner un titre à mon message, c'est celui-ci, l'urgence d'avoir les bonnes priorités. L'urgence d'avoir les bonnes priorités. Matthieu 6, 33, vous le connaissez tous ce passage, cherchez d'abord ou premièrement le royaume de Dieu et sa justice est... toutes ces choses, donc matérielles et tout cela, vous seront données par-dessus. Il y a là une vérité plus importante que nous le croyons. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses matérielles, donc, vous seront données par-dessus. Il y a donc des priorité dans la vie chrétienne, n'est-ce pas vrai? Chercher d'abord, premièrement. Mais beaucoup de chrétiens ne font pas cela. Ils ont mis la charrue devant les bœufs. Et ils sont bloqués. La charrue est là, les bœufs sont derrière. Et ça ne va pas du tout. Les bœufs sont là, la charrue est là, ça devrait être derrière. C'est pas étonnant, on n'arrive pas à labourer, il n'y a rien du tout. Ils vivent dans la disette, ils n'arrivent pas à semer, à labourer. À force de bouger, les bœufs commencent un peu à s'écorcher. Ça saigne un peu de partout. Il y a des bleus un peu de partout. Il y a beaucoup de chrétiens écorchés. Blessés. Et ils essayent de s'en sortir, la charrue est là. Mais cette charrue n'a rien à faire devant toi. La charrue doit être derrière. Il y a donc des priorités. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de magique. Beaucoup pensent que c'est un peu de la magie, de la superstition. Ah, je vais prier, et puis le Seigneur, tout de suite, il doit bénir. Mais sans remplir les conditions. On veut les bénédictions, mais pas les conditions de la bénédiction. De quoi vous allez parler ce matin? Moi, j'attends les bénédictions. En attendant, tant que vous parlez des conditions, ça, je vais un peu penser à autre chose. Mais dès qu'il y aura les bénédictions, là, ça, c'est pour moi. Ah, c'est intéressant, là, c'est intéressant. L'urgence d'avoir les bonnes priorités dans ta vie. La première, aimer le Seigneur de tout son cœur. Tout simple. Tout simple, mais rien que là-dedans. Matthieu 22, 35, 38, vous connaissez le verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Vous voyez, on ne peut pas aimer son prochain si on n'aime pas le Seigneur. On veut faire beaucoup de bien autour de nous, mais si Dieu n'est pas en premier dans notre vie, si lui ne remplit pas notre vie, tout ce que vous pourrez faire... Ça ne va pas bien rester. Avant d'aimer son prochain, de pouvoir l'aimer comme Dieu le veut, nous devons aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur de tout son cœur, voilà la priorité dans ta vie. Et vous avez remarqué, qu'est-ce qu'il est dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu un peu dans ton cœur, un peu dans ton âme, un peu dans ton esprit, un peu dans tes pensées. C'est cela? Mais beaucoup de chrétiens, c'est ça leur version. Un petit peu, de temps en temps. Pas tout. Vous voulez faire de moi un fanatique? Ouh, ça commence à être du fanatisme, ça. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Vous me faites peur, monsieur, ce matin. Non, vous faites peur aux autres si vous ne faites pas cela. C'est quand on ne fait pas ce que le Seigneur dit qu'on fait peur aux autres. Parce qu'on est encore nous-mêmes. Le vieil homme est encore là, avec ses petites idées bizarres, tordues. Il y a le Seigneur d'un côté, mais il y a nos idées à nous, là. On est un chrétien à deux têtes, finalement. C'est pour ça qu'on est un peu bizarre. Et on fait peur aux gens. Le Seigneur est là, mais il y a notre petite tête derrière. De temps en temps, hey, je suis là. Quoi, tu es là? C'est pas toi que je vais voir, c'est le Seigneur que je vais voir. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. Je vous pose une simple question, mes amis. Après tant d'années de vie chrétienne, est-ce que vous l'aimez vraiment de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée? Je dis bien, pas 99,99. Ah bon? Ah? Pas 99, ici c'est pas virgule, c'est point, je crois, je me souviens maintenant. 99,99. C'est 100% ou rien du tout. Ça, c'est la base. Et ça, c'est l'ABC. Ah, vous dites comment? Mais c'est pas possible. C'est l'ABC. Quand quelqu'un aime le Seigneur comme cela, là, il bâtit sur un rocher. Quelle que soit la tempête, ce rocher tiendra. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Pas un petit, pas beaucoup pour le Seigneur et un petit peu pour moi ou un petit peu pour le monde. C'est pas comme cela que ça marche. Et vous le savez vous-même si vous aimez le Seigneur 100%. Et vous savez, avec le Seigneur, la vie chrétienne, c'est la vie la plus extraordinaire. À une condition, qu'on se donne 100%. Les chrétiens les plus malheureux, ce sont ceux qui ne se sont pas donnés 100%. Vous pouvez avoir donné 99,99. Et c'est ce 1/10 de % qui vous rend malheureux. C'est comme un petit fil à la patte, là. On n'est pas libre. Aimer le Seigneur de tout son cœur, toute sa force, toute son âme, de toute sa pensée. Voilà une priorité dans ta vie. Est-ce qu'elle est là? Et il faut être sincère, pas dire, oh oui, Seigneur, tout va très bien. Ok, est-ce que c'est que ça? Et puis au fond du cœur, on sait que ce n'est pas ça. Il ne faut pas porter de masque avec le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Le Seigneur aime la sincérité. Il vaut mieux dire, Seigneur, là, il y a 2-3% qui ne sont pas bien, qui ne sont pas à leur place. Je devrais purger tout cela que de dire, oh, tout va très bien. Et vous savez qu'on peut jouer ce jeu-là pendant des années et des années. Des années et des années. C'est pourquoi vous voyez tant de chrétiens qui tournent continuellement en rond. Ils avancent, on a l'impression qu'ils avancent. Mais vous savez pas, ils n'avancent pas tout droit, ils avancent en rond. Ah, ils avancent! Où tu vas? J'avance. Il avance. Mais au bout d'un certain temps, il est de nouveau au même point. On doit avancer, mais tout droit, dans la bonne direction. Amen. Et pas tourner en rond. Et combien de chrétiens ont ce sentiment-là? Tourne en rond. Est-ce que cette priorité-là, aimer le Seigneur? Et vous savez, je lisais une pensée d'un prédicateur, Tozer, qui est connu. Il disait ceci, il est de plus en plus rare maintenant de trouver des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui se rassemblent pour adorer le Seigneur lui seul. Il est de plus en plus difficile de rassembler des chrétiens dont le seul objectif, c'est le Seigneur. On n'aime pas le Seigneur, on ne doit pas l'aimer par intérêt. On ne doit pas l'aimer, venir à lui pour se faire du bien. Bien souvent, on entend cela. On va se faire du bien. Ah non, ce n'est pas ça. On ne vient pas à l'église pour se faire du bien. Ça, c'est une conséquence. On vient à l'église, non pas pour être béni, mais pour bénir le Seigneur. Et si nous ne faisons pas attention à cela, ça peut durer des années. Et tout autour de nous-mêmes, nous n'arrivons pas à décrocher. Bénis-moi, aide-moi, Seigneur, fais ceci, fais cela, guéris-moi, fais ceci, fais ça, c'est nous-mêmes. Aimer le Seigneur de tout son cœur, sans intérêt. Il est plus important d'aimer le Seigneur pour ce qu'il est que pour ce qu'il a fait. Amen. Lui-même. Que je sois béni ou pas, que j'ai passé une mauvaise semaine ou pas, je viens pour lui. Certains chrétiens, s'ils ont passé une mauvaise semaine, vous êtes sûr de ne pas les entendre. Vous êtes sûr d'avance de ne pas les entendre. D'avance, c'est pas possible. Ma semaine terrible, alors là, ils sont là, vous ne les entendez pas du tout. Notre amour pour le Seigneur ne doit dépendre de rien du tout, ni des circonstances positives ou négatives. Nous venons non pas pour être bénis, nous venons pour le bénir et pour lui seul. Écoutez, il y a là une pensée beaucoup plus profonde qu'on le pense. Il faut prendre ces choses au sérieux, parce que c'est cela qui va nous garder libres. C'est cela, aimer le Seigneur de tout son cœur. Il n'y a plus rien pour nous-mêmes, mais tout pour lui. C'est alors qu'on expérimente sa grâce. Il ne nous abandonnera jamais, loin de là. Il fera même des choses qui nous étonnent dans notre vie. Mais ce n'est pas là notre objectif. Nous, on a notre liste. Seigneur, tu dois faire ceci. Seigneur, tu dois faire cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la liste est là. Et on attend que le Seigneur réponde à toutes nos prières. Et là-dedans, il n'y a rien. C'est tout pour vous. Il n'y a rien pour le Seigneur. Quelle est la priorité là-dedans du Seigneur? Il n'y en a pas. Seigneur, c'est le serviteur. Et nous, nous sommes les maîtres. C'est nous qui commandons. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Voilà la première, une pensée importante. Amen. Il est important de se poser la question, est-ce que je l'aime pour lui-même, le Seigneur? Ou alors est-ce que je l'aime quand il me bénit, quand il répond à ma prière, quand il me guérit, quand tout va bien? Est-ce que je l'aime seulement à ce moment-là, ou plus à ce moment-là? Je dois l'aimer, même s'il ne me bénit pas. Je l'aime, je le bénis, c'est le Seigneur. Je l'aime pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait dans ma vie. C'est lui, c'est une priorité. Et ceux qui tiendront debout dans ces temps de la fin, ce sont ceux qui sont attachés au Seigneur, lui seul. Non pas aux bénédictions du Seigneur. Beaucoup sont attachés aux bénédictions du Seigneur. Mais le Seigneur, ils n'en veulent pas. Ou de temps en temps. L'important, c'est d'être attaché à lui et à lui seul. Alléluia. Et c'est là qu'on découvre combien il est merveilleux, combien il est glorieux, et combien lui est fidèle. C'est vrai, si nous le connaissions tel qu'il est, nous ne douterions jamais de lui. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'instant même, tu viendrais dès aujourd'hui. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Abordons la deuxième priorité, obéir au Seigneur. Jean 14, 15, vous connaissez ce passage. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voyez-vous, l'amour, quand on aime le Seigneur, on le prouve par notre obéissance. C'est bien de dire au Seigneur qu'on l'aime, il faut le faire, mais ça, ce n'est pas une preuve que vous l'aimez. La preuve que vous l'aimez, c'est quand vous obéissez. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Vous voyez, Jésus n'a pas dit celui qui m'aime, c'est celui qui dit combien il m'aime. Pour beaucoup de chrétiens, c'est ça la reversion. C'est-à-dire, tu vois combien je t'aime, parce qu'on dit qu'on l'aime, mais à un moment donné, le Seigneur s'est même fâché avec ceux qui étaient autour de lui et qui disaient tout le temps, Seigneur, Seigneur, tu es merveilleux. Tu fais des miracles extraordinaires. Jamais homme n'a parlé comme toi. Seigneur, vraiment unique, exceptionnel. Seigneur, c'est fâché. Il leur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Voyez-vous? Aimer, c'est obéir. Voilà. Alors, c'est dans la mesure où vous obéissez que vous prouvez vraiment que vous l'aimez. Sinon, c'est de la sentimentalité. C'est du sentiment. Il ne faut pas confondre l'amour et les sentiments. Le véritable amour nous conduit toujours à obéir au Seigneur. Ça, c'est la mesure de notre amour pour le Seigneur. Plus j'obéis, plus je vous prouve que je l'aime. Moins j'obéis, moins je prouve que je l'aime. Et vous devez prouver votre amour au Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous savez, il y en a qui... Vous savez, on a toutes sortes d'idées, même parmi les chrétiens. On n'a que tu veux, après tant d'années de ministère. On voit bien les gens qui, soi-disant, qui aiment le Seigneur, mais la Bible, ils ne s'en occupent pas. La Bible, pour eux, les enseignements du Seigneur, voilà, la doctrine et tout. Non, j'aime le Seigneur. Mais tu n'aimes pas du tout le Seigneur. Tu aimes le Seigneur que tu t'es fait toi-même, mais ce n'est pas le Seigneur de la Bible. C'est ton Seigneur à toi, qui vient de ta tête. Mais ce n'est pas celui qui vient de la Bible. Ce n'est pas celui qui vient du ciel. C'est ton Seigneur que tu t'es fabriqué. Tout est rétabli. Ouf. Ah, mais vous savez, j'aime le Seigneur. Mais on ne le prouve pas. Mais vous savez, je l'aime. Comment vous voulez dire que je ne l'aime pas? Pas bien ce que vous faites là. Et on n'obéit pas à la parole. On leur dit, mais attention là, il y a ça que vous faites, que la Bible, le Seigneur condamne exactement ce que vous êtes en train de... Mais ne parlez pas de ça. Mais je l'aime. Regardez la folie. On n'aime pas le Seigneur comme on le veut, n'est-ce pas? On doit l'aimer comme il le veut, lui. Et le véritable amour nous conduit à l'obéissance. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Mes amis, et quand on garde ses commandements, il y en a beaucoup qui commencent à vous détester, à vous rejeter aussi. Le Jésus populaire dont on entend parler, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Il a été rejeté ici-bas. Et nous serons rejetés avec lui. Mais si nous l'aimons vraiment, nous irons jusqu'au bout avec lui et nous accepterons de souffrir avec lui et d'être rejetés avec lui. C'est là qu'on prouve qu'on l'aime vraiment. Ça, c'est l'ABC. Je vous donne là l'ABC de la vie chrétienne. C'est l'ABC. C'est les bases. Troisième priorité, on pourrait en dire plus bien sûr, mais on va connaître Dieu, connaître Dieu. Osée 4, 6, il y a un beau verset qui magnifique. Mon peuple périt faute de connaissance. Là, il y a un verset extraordinaire. Mon peuple, Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Si tant de chrétiens sont dans tant de confusion, c'est parce que la connaissance de Dieu est pratiquement inexistante. Et vous savez, comment pouvons-nous connaître Dieu? Que par sa parole. Dire qu'on connaît Jésus sans connaître sa parole, ce n'est pas connaître le vrai Jésus. C'est un autre Jésus. Jésus, on ne le connaît que par sa parole. Sinon, c'est une connaissance d'un Jésus à soi, ou d'une religion. Mais on connaît Jésus que par sa parole. On ne connaît Dieu que par sa parole. Et plus on connaît sa parole, plus on connaît Dieu. Et pourquoi tant de confusion, tant d'hérésie dans les églises aujourd'hui? Parce qu'on manque de connaissance. Ou alors on refuse la connaissance aussi. Il y en a qui en manquent. Quand ils ont la lumière, ils obéissent. Mais il y en a d'autres, vous leur dites la vérité. Ça ne marche pas. Salut. Comment tu oses me parler comme ça? Mais c'est la parole de Dieu. Salut. Sinon, je me fâche. Moi, j'ai vu un chrétien une fois. C'était une petite réunion un peu difficile. Quand j'ai dit la vérité, j'ai vu que le poing commence à se fermer à un frère. J'ai dit, il faut arrêter là, parce que ça va aller loin. Voyez-vous comme, jusqu'où ça peut aller? Il était prêt à aller jusqu'au poing. Et on prétend connaître Dieu. On prétend connaître Dieu sans mettre en pratique la parole de Dieu. Tout cela est important. Pourquoi tant de confusion? Pourquoi est-ce que nous faisons, certains font tant de choses bizarres? Parce qu'ils... soit ne connaissent pas Dieu, soit ils refusent cette connaissance que la Bible nous donne pour nous aider à marcher dans le droit chemin. La connaissance est importante. Combien de chrétiens se font apprendre quand il y a une nouvelle chose, par exemple, juste une pensée, une petite pensée. Vous savez, les hérésies, elles viennent toujours, il y en aura tout le temps. Hein? Ces années passées, vous savez, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a eu tant de choses. Mais ce n'est pas terminé, écoutez-moi bien, ce n'est pas terminé, il y en aura toujours. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça viendra. Et qu'est-ce qu'il faut? Certains, dès qu'il y a une nouveauté, ils tombent les pieds joints dedans. Ah bien, extraordinaire, ceci, cela, voilà. Ils sont, il n'y a aucune connaissance de Dieu. Il n'y a aucune recherche vraiment de Dieu. C'est une recherche du surnaturel. C'est une recherche du bien-être. Vous savez, beaucoup de gens, ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent un bien-être. Avez-vous remarqué cela? Voilà, voilà où on en est. Et on tombe les pieds joints dedans. La moindre nouveauté, ça y est, ils sont à l'affût de ces choses. Et pourtant, la parole de Dieu condamne ces choses. Ils ne sont pas en harmonie avec ce que la Bible dit, ce que Jésus enseigne et ses apôtres. Un jour, un jeune homme est venu en Suisse me voir après une réunion. Il a dit, Sam, écoute-moi, c'était quand Toronto avait commencé, vous savez les histoires de Toronto. Il m'a dit, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça a jeté une telle confusion dans les églises, n'est-ce pas vrai? Il m'a dit, j'ai besoin de lumière. En une phrase, dis-moi comment il faut réagir. Et je lui ai dit, écoute-moi bien, si Jésus et ses apôtres, pas les nouveaux apôtres de maintenant, parce qu'il y a des nouveaux apôtres maintenant, et qui en savent plus que les premiers apôtres, je ne parle pas des nouveaux apôtres de maintenant qui voyagent, Jésus et ses apôtres, s'ils n'ont pas enseigné et pratiqué ce que tu vois ou entends, tu dois le rejeter, parce qu'ils sont le modèle pour notre foi. Amen. Et nous ferions bien de faire la même chose. C'est ça, connaître Dieu. On n'est pas meilleur que le Seigneur. Nous avons un modèle, et ce modèle n'a pas changé. Il est parfait. Nous devons le suivre jusqu'au bout. Alléluia. Et ne pas avoir honte de ce modèle. Parce que maintenant, les nouveaux apôtres, ou les nouveaux prophètes, attention, ils ridiculisent ceux qui s'attachent à la parole de Dieu, à la saine doctrine. On leur dit que c'est des pharisiens, et qu'ils condamnent les autres, et qu'ils manquent d'amour. Regardez où on en est. La connaissance de Dieu, ce n'est pas ça la vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu passe toujours par la parole de Dieu. Parce que Jésus et ses apôtres ont enseigné, le modèle est là, il y a un cadre, mes amis. On ne peut pas sortir de ce cadre. Si tu sors de ce cadre de la parole, tu sors du cadre de la protection divine. Le Saint-Esprit agit dans le cadre de la parole de Dieu. Tu sors du cadre de la parole de Dieu, ce n'est plus le Saint-Esprit qui agit, ce sont les mauvais esprits qui agissent. C'est tout simple ce que je vous dis. Mais c'est ça. C'est ça, connaître Dieu. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris cela. Ah, ils ne se posent même pas la question. Est-ce que les apôtres ont fait ça? Je ne veux pas. Puisqu'il y a des nouveaux apôtres qui se prennent encore meilleurs et qui ont des plus grandes révélations que Paul. Vous savez, il y a un de ces apôtres modernes qui a dit un jour, au ciel, l'apôtre Paul viendra un jour devant les nouveaux apôtres des derniers temps. Il va se mettre à genoux devant eux. Il va leur dire, mais expliquez-moi toutes les révélations que vous avez eues. Expliquez-moi, donnez-moi tout. Voilà comment ces nouveaux apôtres considèrent l'apôtre Paul. Et ce sont des choses qui sont écrites. Et ce sont des choses que des chrétiens gobent comme cela. Comme des révélations extraordinaires. Alors ça vient de l'enfer même. Connaître Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Ah, il y a beaucoup de connaissances, mais cette connaissance n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Cette connaissance n'est pas la vraie connaissance. Ce sont des philosophies. Ce sont des visions qui ont besoin de révision. Beaucoup d'apôtres ont des visions qui ont besoin de révision. Quatrième priorité, vivre une vie pure et propre devant le Seigneur. Voilà une autre simple vérité. Vivre une vie pure et propre devant le Seigneur. Ne soyez pas comme Samson qui a détruit sa vie et son ministère. Pour un instant, tant de plaisir. Les chrétiens les plus malheureux dans ce monde, ce sont ceux qui avaient un ministère ou des dons et qui ont tout dilapidé pour un instant de plaisir. Samson. Et que de chrétiens. Un instant de plaisir et tout est gâché. Et ensuite, ce ne sera plus jamais la même chose. Dieu peut pardonner s'il y a une vraie repentance, n'est-ce pas? Mais ce ne sera plus jamais la même chose. On gâche sa vie. Voilà une priorité, mes amis. Vivre une vie pure et propre devant Dieu. L'apôtre Pierre dit dans son épître, l'Éternel parle et dit, « Soyez saints, car je suis saint. » Ne l'oublions jamais que nous servons un Dieu saint. Que l'Esprit de Dieu qui agit, c'est un Esprit saint. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous fait faire des choses saintes. Si nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, nous aurons une attitude sainte, respectueuse, propre. Nous ne ferons pas des choses qui déshonorent Dieu. L'Esprit de Dieu est un Esprit saint qui nous faut aimer, qui nous fait aimer la pureté et rejeter l'impureté. Vivre une vie propre, pure et propre devant Dieu. Que d'exemples dans la Bible et dans l'Église en général. Combien nous devons veiller. Personne ne peut dire ici, moi ça ne m'arrivera jamais. En général, celui qui dit que ça ne lui arrivera jamais, c'est celui-là qui tombe. Parce qu'il n'est plus sur ses gardes, n'est-ce pas vrai? Il n'est plus sur ses gardes. Veillons, chacun, veillons, restons purs et propres devant le Seigneur et ne dilapidons pas les talents que Dieu nous a donnés. Amen. Cinquième priorité, chercher à plaire à Dieu et non aux hommes. Voilà. Une autre simple vérité. Chercher à plaire à Dieu et aux hommes. L'apôtre Paul, dans Galates 1,10, il dit, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de... » Jean 8,29. Plaire à Dieu. À partir du moment où on cherche à plaire à Dieu, automatiquement vous déplaisez à d'autres personnes. Mais nous devons plaire à Dieu et à Dieu seul. Et là encore, que de chrétiens, et même des serviteurs de Dieu, dans le fond de leur cœur, cette priorité n'est pas là. Ce qui compte pour eux, c'est de plaire aux autres. Et c'est toujours des messages populaires, inoffensifs, qui ne dérangent personne. Tout le monde est gentil, tout le monde est merveilleux, extraordinaire. Et on endort les gens. Parce qu'on cherche à plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Et le Seigneur sera avec toi. Et Jésus a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Certains te déserteront peut-être. Mais ton maître, lui, ne te désertera pas. Il sera là. Parce que lui, il est passé par ce chemin. Il sait ce que c'est. Et son père est resté avec lui. Et il semblait que tout était perdu pour lui. Quand on est seul, on a l'impression qu'on est dans l'erreur. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais c'est qu'une apparence. Son père était avec lui. Il ne l'a pas laissé seul. Et il a été jusqu'au bout de son ministère. Et si tu cherches à plaire à Dieu seulement, il sera avec toi. Tu passeras par la tempête, passeras par tant de choses, mais il sera avec toi. C'est le berger fidèle, ne l'oublions pas. Le berger fidèle, il n'abandonne jamais celui qui s'attache à lui. Sixième priorité, je termine. Que rien ne vienne ébranler votre foi. 1 Timothée 1,19. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voyez-vous ? Que rien ne vienne ébranler votre foi. Ne vous laissez pas ébranler par quoi que ce soit, par des scandales, par des choses qui sont terribles. Ne vous laissez pas arrêter par quoi que ce soit. Certains ont fait naufrage. Si on se laisse arrêter, c'est parce qu'on a les regards sur l'homme et non pas sur le Seigneur. Ah, je suis déçu. Si c'est ça, je ne veux plus rien du tout. Ah bon, où tu regardes? Ah, si tu regardes sur l'homme, toi. Mais un chrétien peut être déçu d'autres chrétiens. Mais un chrétien ne sera jamais déçu du Seigneur s'il garde ses yeux sur le Seigneur. Amen. Ah, oh non, je comprends plus. Ah, tu comprends plus rien? C'est toi qui n'as pas compris. Regarde au Seigneur. Peu importe. Garde ta foi. Ne fais pas naufrage. Ne perds pas ton âme. Certains ont fait naufrage, ont coulé dans la tempête. Il y en a plus qu'on le pense, mes amis. Plus qu'on le pense. Et je termine. 7e priorité. Finissez ce que Dieu vous a appelé à faire. Acte 20, 24. Paul est en train d'expliquer son ministère. C'est le dernier discours qu'il fait avec les anciens d'Éphèse. Et il dit, pour que j'accomplisse, c'est-à-dire, je vais lire ce verset, acte 20, 24. 20, 24, il dit 22, et maintenant voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit des liens, des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et le verbe accomplir ici veut dire exactement, afin que je finisse la course. Que je finisse la course. Et notre 7e priorité, c'est finissez ce que Dieu vous a appelé à faire. Quand tu as mis la main à la charrue, tu ne dois plus regarder en arrière, tu dois aller de l'avant. Est-ce que Dieu peut te confier une tâche et aller jusqu'au bout? Vous savez, il y en a beaucoup qui commencent, beaucoup de choses. Mais dès que la tempête arrive, plus rien du tout. Plus rien. Dès que la difficulté est là, il n'y a plus rien du tout. Plus rien. Ils commencent beaucoup de choses, mais ils ne finissent jamais rien. Est-ce qu'on peut te confier quelque chose? Est-ce que tu as abandonné quelque chose que tu aurais dû finir? Que la tempête ne t'éloigne point du Seigneur, mais au contraire, utilise la tempête pour te rapprocher du Seigneur. Finissez le travail que Dieu vous a appelé à faire. Et là, vous pourrez dire, maître, même si vous avez avancé, en tâtonnant. Quelqu'un a dit un jour, celui qui avance à genoux ne recule jamais. Avancez, même à genoux parfois, dans la douleur, l'épreuve, l'incompréhension. Mais celui qui avance à genoux ne recule jamais. Et un jour, le maître te dira, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Finissez ce que Dieu vous a confié. C'est trop facile quand tout va mal. Va, fais ça. Il y en a, vous savez, ils abandonnent aux autres ce qu'ils doivent faire eux-mêmes. Ils disent, moi, le Seigneur m'a montré autre chose. Comment il t'a montré autre chose? Finis d'abord ton travail, après, tu pourras faire autre chose. Il ne te donnera pas autre chose tant que tu n'as pas fini ton travail. Comment est-ce que le Seigneur, il peut faire des choses pareilles? Il te donne un travail, et avant que ce soit fini, il t'en donne un autre. Et il te permet d'abandonner ce travail pour en faire un autre. Est-ce que le Seigneur fait des choses pareilles? Finis-le bien. Et après, le Seigneur te confiera quelque chose d'autre. Mais finis Combien ont pris l'habitude de commencer, même de bien commencer, mais de mal finir. Ce n'est pas le tout de bien commencer dans la vie chrétienne. Il faut encore bien finir. Finissez le travail que Dieu vous a confié. Finissez-le. Que vous puissiez dire au Seigneur un jour, quand vous vous présenterez devant lui, « Me voici, Seigneur. De mon mieux, j'ai fait le travail que tu m'as demandé à faire. J'ai cherché à te plaire avant toute chose. Me voici. » Et c'est là que le Seigneur te récompensera, parce que tu as été jusqu'au bout. On peut faire des erreurs, qui n'en fait pas? Le juste tombe 7 fois, mais chaque fois il se relève, et il va de l'avant. Finissez la tâche. Ne remettez pas à n'importe qui comme cela. Et puis commencez une autre chose, et puis après de nouveau autre chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Finissez bien. Est-ce qu'on peut avoir confiance en vous? Quand on vous donne une tâche, est-ce qu'on sait que vous allez jusqu'au bout? Si vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'au bout, dites non. Ben, il vaut mieux pas. Et quand vous dites, prenez quelque chose, allez jusqu'au bout. Et le Seigneur, comme ça, vous conduira plus loin. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous soyons tous des chrétiens qui cherchent à plaire au Seigneur. L'urgence d'avoir les bonnes priorités. Puissions-nous les avoir tous pour que le Seigneur soit glorifié et que nos vies portent du fruit autour de nous. Il revient bientôt. Le temps est court. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Mes amis, il est temps. Il est temps de faire ce que Dieu nous demande et d'aller jusqu'au bout. Tu as mis la main à la charrue. Ne regarde plus en arrière. Avance. Et ton Dieu sera avec toi. Certains t'abandonneront, mais lui ne t'abandonnera jamais. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et il te donnera la couronne de la vie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les exhortations que tu nous donnes. Merci pour les priorités que tu veux dans notre vie, dans ma vie. Seigneur, nous voulons prendre garde et ne pas faire les choses comme nous voulons, mais comme tu veux. Et te glorifier ainsi, jusqu'au bout. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout va mal, tenir ferme. Et te glorifier dans la tempête et dans l'épreuve. Merci Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Reste à prier encore quelques instants, dans le recueillement devant le Seigneur.
Le Seigneur, après ce message, veut encore adresser quelques paroles pour des personnes toutes en particulier. Des personnes qui sont dans la tempête de l'épreuve et qui ont tendance à regarder trop à leurs circonstances ou alors à trop écouter la voix de l'ennemi. À chacune de ces personnes, le Seigneur s'adresse maintenant. Et il te dit, souviens-toi, mon enfant, que le diable ne peut pas lire tes pensées. Quand tu pries, ne pense pas non plus qu'il est en train d'écouter tout ce que tu dis. Il n'est pas omniscient ni omniprésent comme moi. Mais moi, je suis ton Père céleste. Et rien ne m'échappe. Je connais les circonstances difficiles par lesquelles tu passes actuellement. Je sais tout. Je vois tout. Je comprends tout. Et je prends soin de toi. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe actuellement dans ta vie. Fais-moi confiance, mon enfant. Tes difficultés présentes ne signalent pas mon absence. Au contraire, je suis plus que jamais présent à tes côtés. Je t'entoure, je t'environne de ma grâce, de ma puissance et de ma fidélité, te dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur, c'est vrai. Nous ne voulons pas écouter la voix de l'ennemi. Nous ne voulons pas penser qu'il sait tout. Mais nous savons que quelqu'un sait tout, c'est toi. Et que quelqu'un prend soin de nous, c'est toi. et que l'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut dans notre vie. Alléluia, qu'il est limité à cause de ta souveraine bonté, grâce et fidélité. Alléluia, à notre égard. Merci, merci Seigneur. Merci pour ces paroles d'encouragement pour ceux qui sont ou celles qui sont concernées. Et maintenant, le Seigneur m'a donné une parole plus particulière pour son serviteur, Michel. Il te dit, mon serviteur, bannis toute inquiétude de ton cœur. Tu n'as rien à craindre et la frayeur ne peut s'approcher de toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Tel est ton héritage, mon serviteur. La délivrance que tu attends viendra de moi et de nul autre. Comme tu le sais, mes pensées ne sont pas tes pensées, mes voix sont au-dessus de tes voix. Mais mes promesses pour toi restent immuables. Mon plan pour ta vie s'accomplira certainement. Le temps venu, je te conduirai sur un sentier de paix. Et au lieu des épines que tu as endurées, ton cœur sera rempli de reconnaissance envers moi et ce sera une gloire pour moi. Ce que j'aurai accompli dans ta vie s'élèvera comme un monument impérissable devant moi. Observe ce qui est droit, pratique ce qui est juste, et mon salut ne tardera pas à venir. Ne prends pas de décision toi-même. Laisse-moi prendre cette décision que tu connais à ta place. Et tu ne seras pas confus. Mais tu verras ma gloire, te dit le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Toi qui connais toutes choses. Toi devant qui nous sommes comme un livre ouvert. Qui connais chaque circonstances grandes ou petites que nous avons vécues devant toi. Toi qui as tout pouvoir dans ta main. Toi qui nous as donné un esprit de consolation infinie. C'est à toi que nous voulons nous adresser et te dire que nous te faisons confiance. Tu ne te trompes jamais dans tes voies. Tu ne fais jamais d'erreur. Et s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur, nous savons une chose. Toi, tu ne te trompes jamais. Alors, Seigneur, si nous sommes aussi blottis dans ta main, nous sommes blottis dans la main de celui qui ne se trompe jamais. Alors, nous n'avons rien à craindre. Seigneur, merci, quelles que soient les circonstances, les douleurs, les souffrances. Seigneur, toi, tu ne te trompes jamais. C'est toi que nous voulons suivre, Seigneur. Alléluia. Et il y a ici une personne qui est dans une grande inquiétude à cause d'une grosseur qu'elle a dans son corps. Et tu as peur. Tu as peur du cancer, tu as peur d'une situation grave. Le Seigneur te dit, je connais ta frayeur, ta tourmente, ton angoisse, mais viens te blottir dans le creux de ma main. Rien ne pourra t'arriver sans ma volonté. Rien ne pourra se passer. Merci, Seigneur, de ce que tu poses ta main sur ce corps aussi, Seigneur, pour lequel nous te prions, envoie ta guérison. Il envoya sa parole et il les guérit. Seigneur, envoie ta parole, fais disparaître cette grosseur maintenant, Seigneur. Nous te prions pour cette personne. Merci, Seigneur, pour cette grosseur que tu fais disparaître. Oh, louange à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Et merci pour la paix infinie que tu mets dans le cœur de cette personne. Cette paix qui surpasse toute intelligence, qui est au-dessus des angoisses, des craintes de ce monde. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur, dans les vagues les plus hautes, blottis dans ta main, nous n'avons rien à craindre. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et il y a une autre personne qui est dans une tourmente. Elle a comme une tempête dans sa tête. elle a des douleurs parfois insupportables, presque insupportables, et le Seigneur dit à cette tempête aussi, maintenant calme-toi, maintenant arrête, arrête de souffler, arrête de t'agiter. Seigneur, merci Seigneur pour ces douleurs que tu contrôles et que tu fais disparaître au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, que cette personne soit libérée. Seigneur, merci Seigneur, et que cette personne puisse prendre cette guérison pour elle. Au nom de Jésus, et qu'elle puisse être libérée de cette tourmente qui la prend n'importe quand, jour ou nuit. Seigneur, merci, louange, gloire et puissance à celui qui vit, à celui qui revient bientôt et à celui qui nous aime. À toi, gloire, puissance, hommage. Majesté divine. Amen.